Père éternel, nous te remercions pour cette nouvelle journée que tu nous donnes et cette possibilité que tu nous accordes de nous réunir tous ensemble en Église ce matin. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Dieu, sans doute nous ne mesurons pas le privilège qui est le nôtre, premièrement de pouvoir nous tenir dans ta présence, parce que tu nous as réconciliés avec toi, en livrant ton propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, à la mort de la croix, pour nous sauver. Et puis aussi, nous ne mesurons pas ce privilège qui est le nôtre de nous réunir en Église sans être inquiétés, de pouvoir le faire en toute tranquillité, en toute quiétude. Nous ne mesurons pas notre privilège qui est de pouvoir venir écouter ta parole sainte, qui nous dit qui tu es, qui nous dit qui nous sommes, qui nous dit ce que nous sommes quand nous ne te connaissons pas, et ce que nous sommes quand nous te connaissons, parce que tu nous as fait grâce, parce que tu nous as attirés à toi. Ô Père, pour toutes ces choses, nous voulons t'apporter la louange et la reconnaissance de nos cœurs, et te supplier que tu nous accordes ton esprit ce matin, afin que nous puissions te rendre un culte qui t'honore, par lequel tu sois exalté, élevé, adoré au milieu de nous. Tu es Dieu, et nous voulons nous tenir devant toi dans une sainte crainte de Dieu, en étant réjouis de ce privilège que tu nous accordes. Nous te demandons que ton esprit soit aussi présent partout où ton Église se rassemble ce matin, et en particulier là où quelques-uns doivent se réunir dans la clandestinité, là où quelques-uns auraient voulu se réunir mais qu'ils ne le peuvent pas parce qu'ils sont terriblement persécutés. Ô Seigneur, partout où ton Église se réunit, que ton esprit souffle, que ton esprit agisse, afin que ton nom soit honoré par toute la terre. Permets, Seigneur Dieu, que dans ce culte, ceux qui ne te connaissent pas puissent être interpellés par toi, par ton esprit, pour qu'ils connaissent ainsi cette si grande bonté que tu as manifestée à la face du monde en livrant Jésus-Christ à la mort de la croix, pour le pardon de nos péchés, pour la purification de nos péchés, et pour nous donner une vie toute nouvelle, où nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais où nous vivons pour les autres et pour toi. Nous te louons, nous te rendons grâce. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette chose extraordinaire de pouvoir connaître l'amour de Dieu au travers de la foi que tu nous donnes. Et nous voulons vraiment te demander que tu renouvelles notre foi, que tu nous gardes de penser que nous pouvons être sauvés en dehors de la foi, mais que ce n'est que par une foi véritable, sincère, qui s'appuie sur l'enseignement de ta parole. C'est par cette foi-là que nous pouvons recevoir ce si grand salut que tu avais préparé de toute éternité pour sauver ton peuple, pour un peuple qui t'appartienne, pour l'éternité, qui te serve et qui vive dans ton amour. Seigneur Dieu, nous voulons nous préparer à entendre ta parole, lue tout d'abord, puis prêchée, et te demander que tu nous accordes ton esprit afin que nous puissions la comprendre, et surtout afin que nous puissions la mettre en pratique, recherchant tout ce qui te plaît, recherchant l'honneur et la gloire de ton nom, vivant pour toi. Seigneur, revêt-nous de ton esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Nous allons lire tout d'abord dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, les 14 premiers versets. L'apôtre Paul est en train de parler de la justification par la foi seule dans ce passage. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et la lecture proprement dite qui fera l'objet de la prédication se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, les versets 1 à 6. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit.
Nous continuons donc cette série de prédications sur cette première épître de Pierre. Et vous remarquerez ce matin qu'il existe un lien très étroit entre le texte d'aujourd'hui et le texte que nous avons vu la semaine passée ensemble. Parce qu'ils démontrent tous deux que le chrétien qui souffre injustement de la part des païens ici-bas est en définitive, même si cela ne se voit pas encore clairement, un privilégié. Pourquoi ? Parce qu'il est intimement uni à son Sauveur, qui lui a donné une vie nouvelle, et lui a ouvert un libre accès au Père éternel. Ces deux textes révèlent également, nous le verrons encore ce matin, que celui qui s'endurcit contre Dieu, que celui qui s'oppose à lui et qui particulièrement fait souffrir ses enfants, eh bien aura à en subir nécessairement les conséquences. Peut-être ici-bas, mais très certainement pour l'éternité. J'aimerais revenir rapidement sur les grandes idées du passage précédent. Nous avions tout d'abord considéré au verset 18, on avait lu le verset 17 qui est un verset important, qui introduit tous ces deux passages, celui de la semaine dernière et celui de ce matin, mais nous avions vu donc au verset 18, nous avions considéré Christ en tant que modèle par excellence de l'homme souffrant injustement à cause de la justice, pour finalement parvenir à la gloire. C'est la première chose que nous avions vue. Et nous avions ensuite et surtout considéré Jésus-Christ comme notre Rédempteur, celui par la mort duquel Nous avons été délivrés de la colère à venir et avons eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'éternité, accès au Père. Et tout cela en vertu de notre identification à lui dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Puisque, je vous le rappelle encore ce matin, par notre foi en Jésus-Christ pour notre salut, nous sommes morts, nous avons été ensevelis, nous sommes ressuscités et nous sommes même glorifiés en lui. Et sachant toutes ces choses, eh bien, nous en avons dès lors conclu qu'il nous fallait garder espoir quant aux critiques que nous pouvions subir de la part des païens, aux calomnies aussi qui pouvaient être les leurs à notre égard, car de la même façon que Christ souffrit quelque temps de la main des pécheurs pour finalement parvenir à la gloire éternelle, eh bien nous avons cette assurance aujourd'hui que nos souffrances ici-bas dureront un temps, mais elles ne dureront qu'un temps. Car nous savons que finalement, après cette vie, nous serons dans la présence de Dieu, dans l'éternité, dans la gloire éternelle auprès de notre Dieu. Et je vous le rappelle, nous avions dit que les méchants, quant à eux, après le temps de gloire éphémère qui est le leur ici-bas, auront à subir un jugement et des peines éternelles. Nous avions également dit que Dieu, à leur égard, est plein de grâce, car il se révèle à eux, il se fait connaître à eux, mais ils ne veulent décidément pas de lui, et ils seront donc, je le dis encore une fois, jugés pour l'éternité au jour du jugement dernier. Et dans cette nouvelle section donc, que nous voyons ce matin, c'est versets 1 à 6 de ce chapitre 4, eh bien Pierre fait à nouveau référence aux souffrances de Christ pour nous ses enfants et aux bénédictions qui découlent de ces souffrances. Et il montre entre autres, et dans les premiers versets, dans les trois premiers versets, que par notre union avec Christ, eh bien nous sommes morts au péché. Et que nous n'avons donc plus raison de vivre comme autrefois, selon le train de ce monde, mais bien au contraire que nous sommes appelés maintenant à vivre selon Dieu, à accomplir la volonté de Dieu, parce que nous sommes morts au péché. J'en dirai quelques mots plus précis dans quelques instants. Et il continue en révélant aux chrétiens que cette vie nouvelle à la gloire de Dieu, eh bien, ne peut être l'objet ici-bas, encore une fois, que des railleries et des persécutions de la part des païens. Mais il révèle aussi que ces persécutions ne resteront pas impunies. Les méchants et les persécuteurs recevront de Dieu, au jour voulu, la sanction que mérite leur méchanceté. Et enfin, au verset 6, qui, vous le verrez, est un verset difficile à comprendre, eh bien, Pierre nous apprend que ceux de ses enfants qui sont morts autrefois, au milieu des railleries, au milieu des moqueries et des calomnies, donnant peut-être l'impression d'avoir gâché leur vie pour une foi qui n'en valait pas la peine, eh bien, sont aujourd'hui dans la gloire, dans la présence même de Dieu, et cela pour l'éternité. Et finalement, ce n'est pas les gagnants, enfin ceux que nous croyons être aujourd'hui les gagnants, qui le sont réellement. Alors le titre de la prédication de ce matin est celui-ci, « Une vie nouvelle en Christ ». Et il y a deux points. Tout d'abord, mort au péché avec Christ, et ensuite raillé par les hommes, et je conclurai donc par le verset 6, qui est un verset ô combien encourageant. Donc deux points, mort au péché avec Christ, et le deuxième point, raillé par les hommes. Tout d'abord, ce premier point, mort au péché avec Christ, sont les versets 1 à 3. Alors cette grâce que Pierre présente une fois de plus ce matin, ou une fois encore ce matin à ses destinataires, et dont ils sont les heureux bénéficiaires, donc il nous présente et dont nous sommes les heureux bénéficiaires, c'est leur mort au péché, ou c'est notre mort au péché avec lui. Lorsque Pierre écrit ceci, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » C'est-à-dire armez-vous de la même pensée que vous êtes mort aussi dans la chair, que vous avez souffert en lui dans la chair. « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Ce que l'on peut faire clairement quand on lit ce passage d'un Pierre 4, et particulièrement les trois premiers versets, eh bien, c'est de tirer un parallèle avec l'épître de Paul aux Romains, et particulièrement le chapitre 6, les premiers versets du chapitre 6 que nous avons lu tout à l'heure avec Christophe Demierre. Parce que dans ces premiers versets, Paul enseigne exactement les mêmes choses. Et Paul leur écrit ceci aux Romains. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Car il est mort. » Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant, il vit. Il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi donc, ce que Pierre, dans le texte de ce matin, et Paul signifient dans ces deux passages, c'est ceci. C'est que lorsque nous avons placé notre foi en Christ pour notre salut, Dieu a compté la mort de son Fils, la mort de Christ, comme étant notre mort. De sorte que nous n'avons plus aujourd'hui à mourir pour notre péché. Et de même, Dieu a regardé la résurrection de Christ comme étant la nôtre. Il a compté cette résurrection comme étant notre résurrection. Ainsi, chers frères et sœurs, notre salut, notre libération de la tyrannie du péché et de sa peine repose entièrement sur notre union avec Christ. Par notre identification à lui dans sa mort, le lien qui nous liait intimement au péché a été rompu, a été coupé de façon définitive. Et c'est une grande et bonne nouvelle pour les chrétiens. Parce que la mort de Christ, ou notre mort avec lui, a rompu de façon définitive, je le répète, une servitude terrible qui faisait que le péché régnait sur nous. Notre mort au péché en Christ a rompu cette servitude. La tyrannie du péché sur nous a été rompue par cette mort en Christ. Nous pouvons dire ceci aujourd'hui. C'est que les choses anciennes sont passées. Nous pouvons dire ceci aujourd'hui. C'est que du fait de notre mort avec Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme, qui se complaisait dans la corruption du péché, a disparu au profit du nouvel homme. Alors soyons clairs, le fait de dire que le vieil homme est mort, celui qui se complaisait dans le péché, dans la corruption du péché, a disparu au profit d'un nouvel homme, le fait de dire qu'il est mort, ne signifie pas que nous ne péchons plus, mais signifie que le péché n'est plus le maître absolu dans notre vie. Car nous avons la possibilité aujourd'hui de résister au péché. Les deux apôtres, ayant enseigné cette mort au péché en Jésus-Christ, exhortent ensuite les chrétiens à croire en cela. Il leur dit ceci, « Considérez-vous donc comme mort au péché. » C'est ce que dit Paul. Il montre qu'il y a cette mort en Jésus-Christ au péché. Et ensuite, Paul dit, « Mais considérez-vous comme mort au péché. » Et Pierre aussi dit ceci, « Armez-vous de la même pensée. » Et les ayant exhortés à croire, donc ils sont morts au péché, eh bien tant Pierre que Paul les exhortent à le vivre. Et Pierre écrit ceci, « Afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste encore à vivre dans la chair. » Croyez cette réalité et vivez-le. Considérez-vous comme morts au péché et vivez le fait que vous êtes morts au péché. Et c'est ce que Paul écrit en Romains 6, les versets 12 et 13. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice. Mais livrez-vous vous-même à Dieu. Et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. Comprenez ce que les deux apôtres nous disent. Ils nous disent, vous êtes morts en Christ au péché. Considérez-vous comme tel, puisque c'est la réalité. Et maintenant donc, vivez-le. Nous comprenons donc que ces vérités théologiques révélées par ces deux apôtres ont une portée éminemment pratique. Nous qui sommes chrétiens, étant morts au péché, étant ressuscités des morts en Christ, étant devenus de nouvelles créatures, devons maintenant, et pour le temps que nous avons à marcher ici-bas, c'est ce qu'écrit Pierre, pour le temps qu'il vous reste à marcher ici-bas, nous avons à marcher en nouveauté de vie, à vivre différemment à la gloire de Dieu. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous devons mobiliser toutes nos facultés, toute notre énergie, avec l'aide du Seigneur, pour persévérer dans la foi jusqu'à la fin, jusqu'au moment où Dieu nous appellera jusqu'à lui. Nous devons mobiliser toute notre énergie, toute notre volonté, avec l'aide du Seigneur, pour vivre vraiment cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Et pour cela, les deux apôtres, et Pierre en particulier, nous exhortent à la mortification du péché, c'est-à-dire à renoncer et à fuir les perversions et les vices dans lesquels nous nous ébattions autrefois, lorsque nous vivions selon ce monde. Perversions et vices qui caractérisent le monde païen au milieu duquel nous vivons encore aujourd'hui. Et considérez avec moi ce verset 3 dans lequel Pierre montre clairement les péchés moraux et religieux qui caractérisaient autrefois le monde et qui, de façon évidente, caractérisent encore notre monde aujourd'hui. Et qu'il nous commande à fuir. Quels sont ces vices ou ces perversions morales et religieuses qui caractérisent notre monde et que l'apôtre nous demande de fuir? Tout d'abord, le dérèglement et les convoitises. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cette recherche effrénée du plaisir sexuel. Cette recherche effrénée de tous les appétits illégitimes qui ont à voir avec la sexualité. Cette course à la jouissance absolue. Tout nous est proposé aujourd'hui pour que nous puissions profiter de ce que Dieu nous a donné. La sexualité est une chose bonne, donnée par Dieu, mais pour que nous puissions en jouir et en profiter au-delà de toute mesure, et en dehors des normes établies par Dieu en particulier. Dérèglement et convoitise, ivrognerie et beuverie. Et il fait ici référence à cette consommation excessive et effrénée de boissons alcoolisées. Et force est de constater aujourd'hui, et particulièrement chez les jeunes, que cette tendance va en s'aggravant. La Grande-Bretagne, pour ne citer qu'elle, connaît un véritable problème chez les jeunes, chez les adolescents, du fait de cette consommation effrénée de boissons alcoolisées. Mais on peut penser encore aussi à toutes ces consommations de drogues euphorisantes et autres, qui conduisent à quoi? À l'affaiblissement de la volonté, à la disparition de toute forme d'inhibition, qui ouvre ainsi la porte à toutes les pratiques perverses. Car nous devons bien garder à l'esprit, chers frères et sœurs, qu'il existe un lien étroit entre l'ivrognerie, entre la consommation d'alcool, de stupéfiants, et l'immoralité. Cela existait à l'époque de Pierre, cela existe ô combien à notre époque, et peut-être même de façon encore plus dramatique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc dérèglement et convoitise sexuelle, ivrognerie et beuverie, orgie également. C'est-à-dire toutes ces festivités, ces réunions tapageuses et nocturnes, sorties en boîte et compagnie. Ça ne signifie pas que nous n'avons pas le droit de passer une soirée entre amis, bien entendu. Mais toutes ces rencontres, ces sorties tapageuses nocturnes qui finissent immanquablement ou très souvent en débordements verbaux, en débordements sexuels et même en violence. Alors c'est vrai que tout le monde ne pratique pas cela. Et même parmi les païens, de tels vices ne sont pas forcément pratiqués. Pourquoi est-ce que l'apôtre nous donne ces exemples-là? Il nous donne ces exemples pour nous montrer jusqu'où la corruption qui existe au fond du cœur de l'homme peut l'entraîner. Jusqu'à quel point le péché qui est en l'homme peut l'entraîner. Si il ne passe pas par la repentance et par la foi, et si en tant que chrétien, il ne se confie pas en Dieu et ne vit pas selon la volonté de Dieu. Ce sont des extrêmes, mais des extrêmes dans lesquels on peut tomber très rapidement. Alors pour Pierre, une telle fuite du péché, une telle mortification, un tel renoncement au péché, doit être suivi par la mise en pratique de vertus chrétiennes. Et c'est dans ce sens-là qu'il exhorte les chrétiens à vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu. Et voilà, chers frères et sœurs, un principe chrétien essentiel. La nature ayant horreur du vide, si je peux prendre cette expression, eh bien il faut remplacer la vie pécheresse d'autrefois, à laquelle nous devons renoncer, par une vie sainte aujourd'hui. C'est un principe de base dans la vie chrétienne. Si Dieu nous demande à renoncer à certaines pratiques pécheresses, il nous demande de mettre à la place de saintes pratiques. Mais cela implique, de la part du chrétien, de l'enfant de Dieu, une discipline de vie. Et je mets l'accent là-dessus. Une discipline de vie. Car non seulement il doit fuir le péché, comme je viens de le dire, fuir le péché, ça signifie quoi? Ça veut dire, je vais rentrer dans quelques détails dans quelques instants, mais lui couper toute nourriture. Lui couper toute nourriture afin que ce péché sèche, un peu comme vous coupez la branche d'un arbre n'ayant plus de sève au bout d'un certain temps. Que fait cette branche? Elle sèche, elle ne sert plus qu'à une chose, être brûlée. Ainsi donc, non seulement est-ce qu'il doit fuir le péché, c'est-à-dire couper toute nourriture au péché pour le faire mourir, mais il doit en même temps, comme le sarment qui est attaché au cep, nourrir sainement son âme, afin de vivre selon Dieu. Ainsi donc, vous l'avez compris, non seulement nous faut-il, en tant que chrétiens, fuir le péché, mais surtout prendre journellement du temps pour le soin de notre âme. Prendre journellement du temps pour notre âme, pour nourrir cette âme que Dieu nous a donnée, par la lecture, par la méditation de la parole. Nous l'avons dit la semaine passée. Mais dans ce sens aussi, ne négligeons pas la lecture d'ouvrages chrétiens qui nourrissent notre piété et qui nous encouragent dans notre marche journalière. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez à lutter, comme moi, contre le péché, eh bien, nourrissez votre âme, faites-le mourir et nourrissez votre âme. Prenez du temps dans la lecture et la méditation. Prenez du temps dans la lecture d'ouvrages chrétiens. Prenez du temps dans la prière. Prenons du temps dans la prière. Et restons dans un tel état d'esprit tout au long de la journée. Dans un esprit de prière, c'est-à-dire souvenons-nous tout au long de la journée que nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Lecture de la parole, lecture d'ouvrages chrétiens, prière, mais faire mourir le péché et le remplacer aussi par des vertus chrétiennes, cela signifie peut-être le renoncement à certaines amitiés. Cela signifie peut-être le renoncement à certaines fréquentations. Cela signifie peut-être le renoncement de la fréquentation de certains lieux. Et cela signifie, si nous renonçons à certaines personnes, à certaines fréquentations, à certains lieux, eh bien, les remplacer aussi par la communion fraternelle. Ne négligeons pas la communion fraternelle. Il y a une chose qui m'étonne dans la vie chrétienne. Et en tant que pasteur, je parle. La chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est de constater combien de frères et sœurs vivent leur vie de foi en solo. Et même au sein de leur couple. Combien l'un et l'autre vivent en parallèle. Ah, ils sont chrétiens. Ils sont enfants de Dieu, les deux, ils ont le même esprit, le même sauveur, le même espoir d'être dans la présence de leur Dieu, mais ils vivent réellement en parallèle. Ou combien de frères et sœurs, peut-être célibataires, seuls, vivent leur vie de foi, mais sans jamais prendre conseil. Priez avec un frère ou une sœur. Demandez conseil à un frère ou une sœur. Alors peut-être qu'il y a derrière cela une certaine pudeur. Et nous sommes dans un canton ô combien pudique, quand il s'agit de parler des choses intimes et de la foi. Mais peut-être aussi y a-t-il un certain orgueil. L'orgueil de ne pas vouloir reconnaître ses faillites, ses limites, son péché, de ne pas vouloir nous confier les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Alors je ne suis pas en train de vous inviter ce matin à faire étalage devant tous de vos difficultés, de vos combats, de vos peines, de votre péché, mais au moins de les partager, s'il y a nécessité, avec des frères et des sœurs de confiance. Un des conseils que je donne aux jeunes hommes et aux jeunes femmes que je croise dans le cadre de mon ministère, le conseil que je donnais aux jeunes quand je travaillais parmi les jeunes dans l'action biblique, c'était ceci. Et je le fais encore aujourd'hui, aux plus jeunes et aux plus âgés. C'est de demander à Dieu qu'il leur donne un mentor. Un homme, une femme, enfin un homme pour les hommes et une femme pour les femmes, un frère ou une sœur avancée dans la foi qui pourra cheminer avec eux, qui pourra les conseiller, qui pourra prier fidèlement pour eux. Les exemples bibliques sont là. Prenez Moïse et Josué. Josué, avant de prendre la suite de Moïse, fut son serviteur et caché dans son ombre. Pendant que Moïse était dans la présence même de Dieu et recevait la loi de Dieu, Josué était sur la montagne, un peu plus bas, mais il était sur la montagne, pas avec le peuple d'Israël, en train de pécher. Timothée était le fils spirituel de Paul. Et nous voyons avec quelle affection Paul parle à son serviteur dans les deux épîtres qu'il lui écrit. J'ai personnellement et de longue date bénéficié des conseils, des avertissements et des prières de quelques frères aînés que le Seigneur a placés providentiellement sur mon chemin et sur ma route. Et j'ai prié aussi le Seigneur de m'accorder dans sa grâce des frères qui pourraient m'être d'un certain secours et d'un grand secours. Et le Seigneur m'en a accordé dans sa providence des hommes qui ont été pour moi de précieux compagnons. Des hommes qui se sont permis parfois de me faire des remontrances et de me dire « Attention, le chemin sur lequel tu te trouves est une mauvaise voie. Attention à cette ornière dans laquelle tu vas tomber. » Des frères non seulement qui priaient pour moi, des frères bienfaisants, mais des frères aussi qui m'avertissaient. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné de tels frères qui ont enrichi ma vie aussi de leur expérience chrétienne, de leurs conseils, de leurs avertissements. Enfin, permettez-moi de donner ce conseil, toujours dans le but de remplacer le péché par des vertus chrétiennes, celui tout simple de prendre l'habitude de faire ce qui est bien. Parce qu'il ne suffit pas de lire l'Écriture, il ne suffit pas de la méditer, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de discuter des vérités de l'Évangile, mais encore faut-il les mettre en action, ce que Dieu nous demande, ce que l'on sait être juste. Perdre de mauvaises habitudes, chers frères et sœurs, pour en acquérir de saines, va prendre du temps. Mais cela est possible avec l'aide de Dieu. Mais cela implique de notre part, avec la prière, peut-être les conseils et les exhortations, de rentrer en action, de faire ce que Dieu nous demande. Permettez-moi cet exemple. Et je parle à nous qui sommes mariés, si Dieu nous demande par l'apôtre Paul d'aimer nos femmes, eh bien il est juste de prier pour que Dieu nous aide à les aimer. Mais il faut le faire et nous engager pratiquement en cela. Et je donne cet exemple et nous pouvons appliquer cette vérité à bien d'autres domaines de la vie. Paul, dans la deuxième épître de Corinthiens, prie pour les Corinthiens ainsi. « Cependant nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien. » Alors, engageons-nous dans ce qui est juste. Renonçons au péché, renonçons à des personnes, renonçons à des lieux, renonçons à des lectures. Remplaçons par la prière, la méditation, la lecture d'ouvrages chrétiens, par la communion fraternelle, et engageons-nous avec l'aide du Seigneur à faire ce qui est bien. Permettez-moi de clore ce premier point en vous rappelant ce matin la puissance de la croix de Christ. Elle se dresse pour nous libérer de la condamnation du péché. C'est ce que nous montre Pierre dans ses premiers versets. Et elle en brise le pouvoir, afin que nous vivions maintenant à la gloire de Dieu. Paul écrit aux Galates ceci, Galates 6, 14. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Bien que le Seigneur nous accorde sa grâce vraiment dans cette mort au monde et dans cette vie pour lui à sa gloire. Le deuxième point, raillé par les hommes, ce sont les versets 4 et 5. L'apôtre continue donc en décrivant maintenant l'opposition qui ne peut manquer d'exister dans cette vie nouvelle de chrétien, héritée en Jésus-Christ et celle du païen. Et voici comment Pierre décrit cette opposition. Il parle des païens, il dit ceci. « Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, quoique tous les hommes inconvertis ne se rendent pas coupables des pires dissolutions, néanmoins, il est certain que tous sont corrompus. Il n'en est aucun qui fasse le bien, nous dit Paul. Tous sont corrompus, ne serait-ce que parce qu'ils consacrent une grande partie de leur temps et de leurs affections aux délices passagers du péché. Chacun, bien sûr, selon leur goût et selon leur penchant. Et c'est ainsi que les uns vont courir après les jouissances charnelles, les autres vont être esclaves de l'orgueil de la vie, et d'autres encore se laisseront aller à la convoitise des yeux. Mais tous les hommes ici-bas, et particulièrement ceux qui ne connaissent pas Dieu, se laissent aller au péché. Mais le Seigneur leur adresse ce sérieux avertissement. Un jour, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et le Seigneur dit ceci ensuite, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Prenez garde. C'est l'avertissement du Seigneur à l'égard de tous les hommes. Remarquez ceci au verset 4 du passage que nous voyons ce matin. C'est qu'à propos de la débauche dont il parle concernant les païens, il emploie le verbe « courir ». Pourquoi ? Eh bien, au moyen de ce verbe « courir », il exprime l'énergie incroyable que l'homme déploie afin de se précipiter vers le mal. Un peu comme un torrent dont la pente naturelle l'amène à prendre de plus en plus de vitesse pour se jeter ensuite dans un grand fleuve. Et voilà, chers frères et sœurs, la vie de tout homme ici-bas. De sa naissance à sa mort, c'est une course effrénée vers le péché, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est que l'apôtre nous montre vraiment cette course effrénée vers le péché de la part des païens, mais il nous apprend aussi que les chrétiens, à contrario, ne suivent pas le même mouvement. Et nous comprenons dans ce verset 4, lorsqu'il est écrit « Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche », nous comprenons que les chrétiens nagent au contraire à contre-courant. C'est étonnant pourquoi ? C'est étonnant parce qu'ils sont un petit nombre ici-bas. Nous ne sommes qu'un petit nombre de chrétiens. C'est étonnant parce que nous sommes une troupe bien faible. Mais les chrétiens remontent courageusement la pente fatale et descendante du courant de ce monde. Qu'est-ce qui leur permet un tel exploit ? Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui, en tant que chrétiens, d'aller dans le sens inverse du cours de ce monde ? Eh bien, c'est que nous possédons un esprit assez fort pour nous faire avancer dans ce sens contraire. Nous possédons un esprit assez fort pour soutenir notre course contre les multiples tentations que le monde nous propose afin de nous détourner de la voie que le Seigneur a pour nous. Et combien il y en a dans le monde dans lequel nous vivons ? Cet esprit assez fort pour nous faire avancer dans le sens contraire de la marche, c'est celui que nous avons reçu comme sceau de notre Dieu lors de notre conversion. C'est le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, à propos duquel l'apôtre Jean nous apprend qu'il est plus fort que celui qui est dans le monde. Jean 4, verset 4. Chers frères et sœurs, l'Esprit de Dieu dont vous avez été scellés agit dans votre vie chrétienne afin de vous aider à résister à la déferlante du monde. L'Esprit de Dieu agit. Il a commencé en vous une bonne œuvre qui l'amènera à la perfection. Comment est-ce qu'il agit ? Eh bien, il nous révèle, il vous révèle, clairement, au moyen de la parole, la bassesse du péché et la profondeur de la misère vers laquelle le péché conduit tout homme. Le Saint-Esprit agit encore en ce qu'il perce à jour, toujours au moyen de l'Écriture et du discernement qu'il accorde, toutes les séductions trompeuses dont se pare le monde. Et il révèle la difformité et la pourriture que cachent ces séductions. Alors que ceux du monde sont éblouis par ces séductions et croient que c'est en elles qu'ils vont trouver leur bonheur. Par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, chers frères et sœurs, Dieu nous accorde de vivre comme un homme qui est en montagne et qui marchait jusque-là dans le brouillard et tout à coup il sort du brouillard. Et que voit-il sur son sentier ? De chaque côté des précipices. Et alors, il fait bien attention de se maintenir sur le sentier sur lequel il est en train de marcher. Et alors qu'il se retourne, il voit derrière lui un grand nombre d'hommes et de femmes qui se précipitent dans ces précipices et qui sont engloutis par ces précipices. Ces précipices étant, c'est tous les pseudo-plaisirs de ce monde. Que fait cet enfant de Dieu qui marche ainsi illuminé sur le sentier? Eh bien, il continue sur cette étroite voie qui est celle de la vie chrétienne. Et sur cet étroit chemin, il est soutenu, il est fortifié dans les combats, il est encouragé dans les fatigues, il est consolé dans les peines par l'Esprit Saint, son grand, son bienveillant et son fidèle compagnon de route. Voilà, chers frères et sœurs, la réalité. Nous avons l'assurance, en tant que croyants, que l'Esprit de Dieu nous accompagnera jour après jour, pas après pas, jusqu'au terme de notre course terrestre. Mais encore faut-il, permettez-moi d'y revenir, mais encore faut-il rester attaché à notre Dieu comme le sarment reste attaché au cep. Encore faut-il être des croyants disciplinés. Voilà donc ce que n'aime pas le monde. Voilà ce que le monde trouve étrange. Voilà ce qui l'irrite profondément. Quoi ? Le fait que le croyant ne court pas avec lui sur la pente descendante de la corruption, mais qu'au contraire, il marche à contre-courant. Il ne le supporte pas. Et son étonnement et son rejet, comme le dit Pierre, s'expriment à l'égard des chrétiens par des critiques et des calomnies. Permettez-moi un florilège de ces critiques et ces calomnies que nous avons tous entendues, directement ou indirectement. Ce sont des fous, des orgueilleux, des hypocrites. Mais pour qui est-ce qu'ils se prennent ? Ils veulent se distinguer du monde entier. Ils se croient meilleurs et plus spirituels que les autres. Ils nous méprisent et nous culpabilisent, nous parlant de notre péché et nous appelant à la repentance, alors que nous sommes finalement de bien braves gens. Ce sont des intolérants, croyant bénéficier d'une révélation particulière. Voilà un florilège des critiques de ce monde qui ne supporte pas qu'on ne le suive pas, qui ne supporte pas que nous allions à contre-courant. Disons encore que le monde se moque et méprise aussi le temps que le chrétien passe à la lecture de l'Écriture, le temps que le chrétien passe à la méditation de la parole, à la prière, aux participations aux réunions d'église. Pourquoi ? Parce qu'il en ignore les bienfaits. Ces bienfaits immenses dont jouit le croyant lorsqu'il s'approche de son Dieu. Le monde ne peut pas non plus imaginer que le bonheur de rechercher cette communion avec Dieu surpasse de beaucoup toutes les jouissances de ce monde. David lui-même, dans un de ses psaumes, écrit de façon si claire que pour lui, s'approcher de Dieu, c'est son bien. Et il n'a aucun autre plaisir, ou de plus grand plaisir, il en a certainement d'autres, mais il n'a pas de plus grand plaisir que celui d'être auprès de son Dieu. Voilà ce que le monde ne comprend pas et ne supporte pas. Voilà pourquoi il s'en moque. Et permettez-moi d'aller plus loin. Le monde ne peut pas soupçonner les réels délices qu'il y a jusque dans les douleurs profondes de la repentance. Le monde ne peut pas supposer le bonheur qu'il y a même dans les larmes amères qu'arrachent aux chrétiens le souvenir de ses péchés. Ni bien sûr, et par-dessus tout, la joie incommensurable qui suivent ces moments d'humiliation lorsque le chrétien, après s'être placé devant son Dieu, avoir reconnu son péché et sa misère, comprend qu'il a affaire à un Dieu qui lui a pardonné ce péché, qui a payé le prix de ce péché, un Dieu qui maintenant le relève et l'invite à repartir avec lui. Quelle grâce que de pouvoir s'agenouiller ainsi devant Dieu et repartir avec lui. Le monde ne peut le comprendre, alors il méprise cette repentance du croyant. Mépris, moquerie, critique, plus ou moins virulente, plus ou moins explicite, sont donc le lot des chrétiens. C'est immanquable, à un moment ou à un autre. Sont le lot des chrétiens qui ne veulent plus marcher comme autrefois, mais veulent vivre et vivre en nouveauté de vie selon Dieu. Or, et comme nous l'apprend l'apôtre, que les méchants oublient dans leur légèreté les calomnies et les injures qu'ils ont proférées contre les disciples de Jésus parce qu'ils calomnient tellement. Nous le savons, nous avons nous aussi encore cette tendance, n'est-ce pas ? Alors à combien plus forte raison ? Même si eux les oublient, ou si peut-être les enfants de Dieu, les chrétiens, oublient aussi dans leur charité les critiques, les calomnies qu'ils ont reçues à cause de leur foi. Elles ne seront pas oubliées par Dieu. Elles ne seront pas oubliées par Dieu. Toutes ces moqueries et ces malveillances ont été recueillies, ont été enregistrées dans le livre de la justice infaillible de Dieu. Et il faudra que les méchants en rendent compte un jour. Nous serons nous aussi jugés pour toutes nos pensées, pour toutes nos paroles, pour tous nos actes. Nous passerons devant le tribunal de Dieu. Mais les méchants aussi, et ils devront rendre compte, nous dit Pierre. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, écrit-il. Et ce compte à rendre sera terrible et redoutable pour les ennemis de Dieu, pour les ennemis de son évangile, pour les ennemis de son peuple. Que pourront faire ces hommes et ces femmes lors de la révélation finale du roi des rois, lorsque, venant dans sa gloire, il se fera connaître à eux? Que pourront-ils faire? Que pourront-ils dire? L'Écriture nous apprend que ce jour, ils seront jugés justement et mis à sa gauche. En Matthieu 25, le Seigneur Jésus écrit ceci. Et il parle de lui, puisque c'est lui qui jugera chaque homme. Et il mettra les brebis à sa droite, ses enfants. Et il mettra les boucs à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Chers amis, vous qui désirez que l'apparition du Seigneur, juge du monde, soit pour vous un jour de joie et non de terreur, un jour de gloire et non de honte, alors je ne saurais trop vous exhorter. Pour vous, pour qui peut-être ce n'est pas encore le cas, à placer votre foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul pour votre salut. Et pour tous ici présents ce matin, à marcher dès aujourd'hui dans les voies de la sainteté. À vous tourner vers Christ, à renoncer à votre péché, à mettre votre foi en lui et à marcher en nouveauté de vie. Et pour vous qui êtes enfants de Dieu, eh bien, à continuer d'avancer, de persévérer dans la voie de la sainteté. Évitez, haïssez ce qui dans les habitudes de ce monde est corrompu. Mettez à mort avec l'aide de Dieu votre propre péché. Et souvenez-vous d'une chose, c'est que toutes les critiques, toutes les calomnies, tous les jugements que le monde porte sur vous, le jour du jugement de Dieu, seront des témoins à charge contre ce monde-là. Ne vous laissez donc pas effrayer par ses critiques, par ses calomnies, par ce rejet, par ce mépris, parce que le jour de la justice arrive inexorablement. Inexorablement. Je conclus au moyen du verset 6. Pierre termine donc ce passage au verset 6, qui est un verset difficile. Il y en a eu beaucoup dans les deux portions de texte que nous avons vues ces deux derniers dimanches. Il termine au verset 6 en faisant référence à ceux qui, au cours de l'histoire de l'Église, entendirent l'Évangile prêché, crurent en Dieu et furent éprouvés du fait de leur foi. Parce que nombreux furent ceux qui, du fait de leur prise de position courageuse pour la vérité, souffrirent de la part des méchants et, dans certains cas, devinrent des martyrs. Et il y a, me semble-t-il, un passage de l'Écriture qui correspond tout à fait à ce dont il est question dans ce verset 6. Ce passage se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Il est écrit ceci. « D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » C'est de ces témoins dont il s'agit, chers frères et sœurs. Selon Pierre, tous ces croyants qui nous ont précédés, bien que jugés ou condamnés ici-bas, dans leur corps, dans leur chair, par les hommes impies, à cause de leur foi, furent justifiés par Dieu et jouissent maintenant de la vie éternelle, dans la présence de Dieu. Ils n'étaient pas morts au moment où l'Évangile leur fut prêché, mais ils le sont maintenant, en tout cas en ce qui concerne leur corps. Et même si ceux qui les firent souffrir à l'époque, ou bien que ceux qui les firent souffrir à l'époque les considéraient comme des fous, eh bien Dieu les honora à cette époque-là, mais aussi aujourd'hui, au ciel, dans sa présence. Et c'est eux, en définitive, qui sont les grands privilégiés. Même si leur foi et leur vie furent raillées de la part des méchants, du temps de leur passage sur terre, elle fut néanmoins toujours reconnue par Dieu, et ils vivent maintenant dans un état de perfection et de paix absolue dans la présence même de Dieu. Voilà un sujet d'encouragement pour nous, chers frères et sœurs. Nous aurons à souffrir. Peut-être est-ce le cas aujourd'hui, peut-être est-ce que cela a été le cas et cela le sera certainement demain. Mais nous avons une certitude, c'est que Dieu fera justice. Nous avons cette certitude, c'est que ceux qui, comme nous et qui nous ont précédés dans la foi, ont été peut-être humiliés à cause de leur foi, sont actuellement dans la présence même de Dieu et pour l'éternité, dans la paix. Et nous le serons, nous aussi. Alors, sachant cela, que le Seigneur nous donne de nous réjouir de toutes les bénédictions qu'il nous accorde aujourd'hui en Christ. Première bénédiction que nous avons vue ce matin, notre libération du joug du péché. Nous avons été libérés. Christ est mort pour nous à cause du péché. Nous n'avons plus à mourir à cause de celui-ci. Réjouissons-nous de cette réalité, réjouissons-nous de cette vie nouvelle de sanctification et marchons sur le chemin sur lequel il nous conduit. Et quant aux multiples souffrances que nous avons à subir de la part des païens, eh bien, sachons les considérer à l'aune de l'éternité. Et nous souvenir de que quoi qu'il se passe ici-bas, quels que soient les rejets, les moqueries, Dieu est pour nous, pour l'éternité. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen.
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen.